Et c'est le moment de retrouver notre émission mensuelle Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement et donc Martine Vallon, présidente de France Nature. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler.
Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des héros de l'environnement. Cela grâce à un livre qui est sorti dernièrement, donc d'Elisabeth Schneider, dont je vous laisserai les coordonnées pour mettre sur le site, donc intitulé « Les héros de l'environnement » et qui dresse le portrait d'un certain nombre de gens connus ou inconnus, ou qui sont connus parce que justement ils se sont dressés contre des sociétés, des multinationales, des entreprises ou des États qui détruisaient leur environnement, qui détruisaient leur village, leur forêt ou bien la mer, bref. Donc tout ce qui était leur vie. Et en fait, on n'a pas tellement la vision, la visibilité de l'existence de ces gens-là. Et c'est assez négligé finalement, ce qui fait qu'on s'imagine toujours que, bon, à part quelques mouvements du type manifestations, pétitions, etc., qu'il n'y a pas grand-chose et qu'il y a peu de gens qui se lèvent et qui agissent et dont l'action est parfois très efficace et aussi, surtout, qui paient parfois de leur vie cette prise de position. Donc, on voit sur ce livre qu'en 2017, d'après les calculs de l'ONG Global Witness, 207 activistes ont été tués parce qu'ils défendaient la nature, ce qui fait environ 4 personnes par semaine en 2017. Donc il y a vraiment des mouvements forts qui se produisent partout dans le monde et des gens qui n'hésitent pas à se lever et à agir et à s'opposer à ceux qui les détruisent et à ceux qui les tuent. En fait, l'auteur nous dit que c'est une guerre ignorée qui est en cours sur la planète entre des entreprises prêtes à tout et des gens qui veulent vivre libres et indépendants sur leur terre, sans nuisance et sans destruction. Et face à la puissance froide des multinationales, dont les bulldozers et les milices avancent sans relâche, des femmes et des hommes luttent à mains nues, en chantant, en défilant, en immobilisant les engins de construction. En fait, ces luttes, elles ont souvent lieu dans des forêts qui sont vitales pour 1,6 milliard de personnes à peu près, et soit un quart de la population humaine, dont beaucoup de peuples indigènes qui dépendent pour leur subsistance quotidienne et leur survie à long terme, qui dépendent de ces forêts. Et les forêts, par exemple, sont attaquées par les vendeurs de bois précieux. On a au Cambodge, c'est le bois de rose, le palissandre, qui est coupé, déforesté et qui passe par des circuits interdits, enfin en toute illégalité, qui passe par le Vietnam pour être ensuite, bien sûr, exporté un peu partout. C'est aussi les braconniers, l'Afrique et les forêts de Sumatra, etc., ont les braconniers. C'est l'agriculture intensive, par exemple l'huile de palme, aujourd'hui c'est un des gros problèmes. Ça peut être les barrages ou bien les industries extractives, donc le gaz de schiste, le pétrole, les mines, tout ça.
Et donc, on en parle moins du gaz de schiste. Il y a eu beaucoup de manifestations contre ça. Oui, il y a quelques temps, on en parle plus.
On en parle moins. Dans certains États, ça tourne bien, ça fonctionne. Le Canada, il y a des mines énormes qui sont aux USA aussi. Il y a de grosses exploitations. En France, on n'en parle plus. Cela dit, le code minier est aujourd'hui en réétude et il doit être rénové. Et donc, je dirais que ça va reposer probablement le problème sur la table, parce que s'il y a des modifications des textes, il y a fort à parier que certaines choses de ce type sont visées et que le désir de reprendre des exploitations ou de mettre en place des exploitations à ce niveau-là va probablement ressurgir. Donc, on voit que ce sont des luttes qui sont multiples, qui sont très dispersées dans le monde et qui peuvent durer très longtemps. C'est-à-dire que dans certains cas, si longtemps que lorsqu'on tue les leaders, ce sont les enfants qui reprennent le flambeau et qui continuent le combat. Et par exemple, c'est le cas d'un des portraits qui est tiré dans ce livre, qui est Isidro, un indien du Mexique qui défendait la forêt amazonienne contre certaines entreprises. Donc là, c'était extractive, je crois. En fait, aussi... Ce Mexicain qui a reçu le prix Goldman en 2005 disait: pour nous, les Tarahumara, les forêts, le ciel, le soleil, les étoiles et la lune sont des êtres vivants avec une vie, une âme comme nous. Et donc il a reçu ce prix au nom, il dit: je reçois ce prix aussi au nom de mon père Julio Baldonegro Peña, qui a été donc assassiné par les entreprises ou sur la demande, en fait, et sur l'impulsion des entreprises qui déforestaient ce secteur-là. Et peu de temps avant de recevoir ce prix, il était en prison où il avait passé 15 mois, arrêté sans mandat en 2003, accusé mensongèrement de possession d'armes et de drogues par les criminels puissants et influents dont il gênait les activités dans la forêt. Les mêmes qui avaient commandité l'assassinat de son père, abattu devant la maison et sous ses yeux en 87 par des forestiers illégaux. Et donc au Mexique, comme au Honduras, l'exploitation forestière et l'élevage servent souvent à blanchir l'argent de la drogue, avec les mêmes conséquences, violence et criminalité. Donc Isidro a continué la lutte, a repris la lutte de son père pour tenter de stopper la déforestation illégale, le vol de terre et les agressions dans la région des Tarahumara, à l'ouest de la Sierra Madre. Et puis, il a fondé une organisation donc, pour lutter contre la déforestation, et elle a pris une importance nationale et est rentrée en contact avec des ONG internationales. Et donc, il a réussi à entraîner avec lui d'autres habitants pour des marches pacifiques, pour de grandes manifestations. Et en fait, ensuite, bien sûr, il y a eu un réseau de propriétaires fonciers qui a fait pression sur le gouvernement pour le faire arrêter. Et donc, il a été arrêté, détenu illégalement. Et lorsqu'il a été libéré, il a fini par être assassiné le jour de son retour, donc en 2017, en étant... Alors, c'est vrai que nous, on connaît peu ces militants dans les secteurs Amérique du Sud, ils sont nombreux. Une des figures qu'on connaît le mieux, peut-être, ou dont on a souvent entendu parler, c'est Diane Fossé, par exemple, qui, elle, défendait les gorilles de la montagne, voilà, et qui a découvert en fait l'Afrique à l'âge de 31 ans et qui était un peu c'est l'amitié entre Jane et King Kong, enfin c'était un peu cette image là qu'on en a gardé. Et Diane Fossé s'est fait assassiner. Elle a effectivement été tuée à coups de machette et on l'a laissée dans sa hutte avec l'arme à côté pour bien signaler pourquoi elle était morte. Et en fait, sa maison a été vandalisée. Enfin, tout a été fait de façon très théâtrale, en fait, pour bien impressionner. Et pourtant, elle a contribué à sauver les gorilles de montagne en les faisant connaître. En fait, à sa mort, il n'y en avait plus que 280. Et aujourd'hui, il y a un centre de recherche qui a été créé à son nom dans le parc national des volcans du Virunga. Et des milliers de visiteurs essaient chaque année d'entrevoir un de ces 880 gorilles qui sont maintenant recensés entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc, ces actions qui paraissent et le fait que effectivement à certains moments ces défenseurs, ces héros de l'environnement vont jusqu'à donner leur vie, arrivent quand même à faire bouger les lignes un peu et à faire évoluer les choses et à permettre à certains moments que la situation s'améliore. Alors on va peut-être faire une pause avant que je reparte sur le Mexique.
Alors on va écouter laquelle
musique
en
africaine, la musique africaine.
Hein, c'est parti.
En hommage à Diam Fossé. Donc je parlais du Mexique, donc avec ce portrait d'un des Isidro qui a fondé une organisation pour lutter contre la déforestation. Mais on voit aussi par exemple au Honduras où on a aussi des gens qui se sont levés pour essayer d'empêcher certaines entreprises donc de détruire leur environnement. Et au Honduras, comme dans d'autres dans lieux, donc là il s'agissait d'un barrage. Et la question se pose très fortement de la collusion et de la corruption, des mécanismes de corruption qui se mettent en place lorsque, comme ça, il y a des exploitations illégales. Ça peut être des mines d'argent, des mines d'or, et donc avec l'extraction polluante. Mais c'est aussi de la déforestation, enfin c'est vraiment... Et à ce moment-là, il arrive qu'il y ait une collusion entre les États et les entreprises. Le seul facteur qui compte, nous dit l'auteur, est le profit. Les industriels qui lorgnent une ressource dans un pays passent des accords avec les dirigeants politiques pour exploiter des terres, généralement sans le consentement des communautés locales, qui est pourtant obligatoire aujourd'hui d'après la Convention de l'Organisation internationale du travail. Cette convention précise que le droit des peuples autochtones à des consultations préalables et informées doit être mis en place. Et chaque fois qu'une entreprise obtient la concession d'un territoire dans un contexte de corruption, elle est assurée de pouvoir maximiser ses bénéfices en toute impunité, sans souci de l'environnement ni des droits fondamentaux des citoyens qui sont affectés. Et rien qu'au Honduras, plus de 130 défenseurs de l'environnement ont été assassinés et d'innombrables autres menacés, harcelés, attaqués ou emprisonnés injustement depuis le coup d'État de 2009. Les assassins et leurs commanditaires s'en tirent généralement sans condamnation et plus de 90% des crimes restent impunis. Pourtant, le Honduras avait signé la déclaration sur les défenseurs des droits humains et en fait, rien n'est mis en place ni réalisé dans ce sens-là. Et la corruption au Honduras, ce n'est pas simplement un produit par des malversations individuelles, mais, ou des pots de vin, des choses comme ça. Mais il y a tout un système, et le Honduras est un exemple, mais dans d'autres pays c'est la même chose, c'est tout un système opérationnel qui est institutionnalisé, qui est fait de réseaux complexes, qui n'a pas forcément de limites géographiques ou sectorielles. En fait, la raison, c'est de maximiser les rendements et pour que ceux qui sont aux commandes en profitent aussi. Et donc, les membres de ces réseaux s'arrangent pour écrire les règles de l'activité politique et économique à leur avantage, en plaçant dans les institutions de l'État des alliés qui leur obéissent. Donc il y a tout un mode de fonctionnement qui fait qu'effectivement on place des hommes à soi. Et la vision instrumentale que les hommes d'affaires ont du rien, ont de l'État comme moyen de soutenir leurs intérêts, met les politiciens à leur service et leur pouvoir augmente avec chaque nouveau gouvernement. Et donc ça entraîne effectivement une impunité organisé, enfin, et toute une forme de mécanismes qui sont les mécanismes de la corruption. Global Witness, qui est une ONG, a fait un rapport sur ce sujet et ils ont repéré 5 méthodes principales de corruption qui sont utilisées pour s'approprier des terres, les acheter ou faire taire l'opposition et se débarrasser des gêneurs. Alors la première méthode, c'est une influence politique et c'est utilisé par les élites pour décrocher des contrats lucratifs, obtenir des licences officielles et lancer leur projet. Donc là, c'est avec effectivement les dirigeants politiques qu'il y a des accords qui se passent. Et puis, ensuite, comme ils se savent protégés, les responsables des projets outrepassent les processus réglementaires. Par exemple, dans le cas du barrage d'Aguazarca, qui est un des exemples donnés dans le livre, les entreprises ont tranquillement contourné leurs obligations légales. C'est une deuxième tactique. Donc, ça se passe... Le fonctionnement peut être un peu le même n'importe où, c'est-à-dire que en gros, c'est comme si au lieu d'aller demander un permis de construire pour sa maison ou pour sa paillote ou pour son on le construit et puis ensuite on met les pouvoirs publics devant le fait accompli et puis on régularise. Dans certains cas, effectivement, c'est une telle il y a une telle avancée qui est faite, puis après ça peut être de la pression sur les emplois, etc. Donc finalement l'affaire est régularisée ou bien une dérogation bienvenue arrive ou bien on ferme les yeux et les choses restent telles que. Et lorsque les communautés affectées remettent en question des contrats louches, une troisième tactique rentre en jeu, des pots de vin, on paye les militants pour qu'ils se taisent. Donc ça arrive effectivement, et dans certains cas, entre l'intimidation plus l'apport d'argent, ça peut entraîner certains à laisser tomber, à baisser les bras et effectivement à ne plus se battre. Et ensuite, si les pots de vin ne suffisent pas, on passe à la force avec souvent un soutien militaire. Et donc, par exemple, sur l'une des activistes, enfin, sur un des portraits donc, qui est fait de Berta Isabel Carces Flores, donc, qui est au Honduras. Et effectivement, elle a eu droit à toutes ces formes de pression qui ont augmenté. Et elle a fini effectivement par être assassinée. Donc, au bout d'un certain temps, donc on lui a proposé de l'argent pour qu'elle s'arrête. Et comme elle a refusé, elle a été ensuite arrêtée parce qu'elle a possédé des armes qui avaient été dissimulées. Alors on l'a accusée de posséder des armes, mais en fait elles avaient été dissimulées chez elle. Et c'est aussi une des procédures utilisées contre les activistes qui dérangent. Et ensuite, elle a fini par être assassinée. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé qui étaient les assassins, qui avaient commandité. Enfin, voilà. Bon, donc ça reste des affaires extrêmement fermées et opaques. Et donc, voilà, ça se passe au Honduras, et où il y a effectivement, depuis longtemps, les Tolupanes, qui sont une ethnie du nord du pays, qui sont menacés et criminalisés parce qu'ils se battent contre les activités illégales d'exploitation forestière et minière qui pillent leurs ressources. Les Tolupanes, ce sont le groupe indigène le plus marginalisé du Honduras. Ils vivent dans une pauvreté extrême, dans des zones rurales très difficiles d'accès. Et en fait, par exemple, en 2014, la maison du leader des Tolupanes, donc, qui s'appelle Santos Cordoba, a été cambriolée, ses récoltes incendiées et ses enfants ont été menacés par un général et les gardes du corps armé qui ont promis de revenir pour détruire la maison et tous les biens de la famille s'il arrêtait pas ses activités. Donc ça, c'est voilà des pratiques de terreur qui sont assez régulièrement utilisées et pratiquées. Et donc, les Tolupanes, en août 2013, ils ont organisé un sitting pacifique permanent pour arrêter le passage des camions miniers et forestiers sur leur territoire. Ils ont reçu des messages de menaces et une semaine plus tard, des hommes armés se sont approchés des manifestants du sitting et ont tout simplement ouvert le feu, comme un peloton d'exécution, en tuant deux des leaders indigènes, Armando Funes Medina et Ricardo Soto Funes. Et une autre activiste, Maria Enriqueta Matute, s'est sauvée, mais ils l'ont poursuivie aussi et abattue devant chez elle. Donc c'est vraiment une forme de guerre qui se joue, en fait, qui se passe un peu partout sur la planète. Il y a des portraits, donc je disais, au Cambodge, il y a en Afrique, il y a le Honduras, il y a un peu partout, et des gens modestes qui se lèvent et qui essaient de protéger leur monde, leur milieu, leur terre. Alors, quels sont les autres moyens d'empêcher ces activistes, ou bien quels sont les autres moyens aussi dont on peut disposer pour essayer de défendre l'environnement? Alors, on va peut-être rester un peu sur l'Amérique du Sud avec une petite musique qui remonte le moral.
C'est
Gilberto Gil,
oui.
Et Stan Getz.
Allez, The Girl from Ipanema, c'est tout de suite.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Top and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Watch her so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him.
Donc, alors, je dirais, le 20e anniversaire de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme a eu lieu en 2018. Mais de nombreux gouvernements continuent de s'engager à soutenir ces défenseurs au niveau international. Donc, ils signent la déclaration, mais ils continuent de les réprimer chez eux. Et un peu partout dans le monde, les gouvernements harcèlent les médias qui osent informer sur les désastres environnementaux et la corruption. C'est-à-dire que les militants sont poursuivis, pourchassés, accusés, mais aussi ceux qui parlent d'eux, ceux qui les défendent ou ceux qui les soutiennent. Et en plus des meurtres, fausses accusations, des harcèlements de toutes sortes et de la criminalisation en tout genre, les poursuites bâillon sont aussi une des stratégies qui sont utilisées pour entraver et délégitimer le travail des défenseurs aux yeux de leur communauté. C'est-à-dire, en fait, les poursuites bâillon, c'est poursuivre le militant devant les tribunaux, le but n'étant pas de gagner, mais de créer un effet dissuasif, de faire taire les activistes en les inondant de procédures judiciaires longues, coûteuses, qui les contraignent à transmettre à l'entreprise les communications privées, des documents sur les campagnes axées contre les entreprises, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on leur enlève leurs moyens d'action, on les étouffe à force de procès et de mesures de procédures juridiques. Mmh. Et certains États qui ont voté des lois antiterroristes très vagues aussi permettent de poursuivre les activistes. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, il commence à y avoir des textes de loi qui sont des textes qui peuvent ouvrir à une interprétation dangereuse pour par exemple les lanceurs d'alerte. Une des dernières lois, par exemple en France, sur la protection des découvertes dans le monde de l'économie, la protection des secrets d'entreprises, etc., peut à certains moments être un empêchement pour quelqu'un qui voudrait signaler des dérives sur certains produits. Donc on arrive à un point où des milliers de défenseurs aujourd'hui sont détenus ou inculpés sur de fausses accusations ou bien soumis à des procédures juridiques très longues, très coûteuses, qui peuvent être injustes. Et dans certains cas, ils sont même condamnés dans certains pays. Il y a donc des positionnements des juges qui font qu'ils sont condamnés à des emprisonnements. Et même, bon, si on regarde la Chine, je vais le dire aussi, à la peine capitale. Par exemple, en janvier 2018, un juge a condamné Thomas Lindsay, qui était l'avocat d'une petite ville américaine qui s'oppose à l'exploitation du gaz de schiste sur son territoire, à payer une partie des frais de justice de la société qui veut exploiter. Lindsay, c'est un des fondateurs du Fonds de défense juridique pour l'environnement communautaire qui défend gratuitement des groupes et des municipalités pour protéger leur qualité de vie, leur environnement naturel. C'est-à-dire que là aussi, y a des avocats qui prennent fait et cause pour ces militants ou pour les sociétés, les communes qui veulent empêcher les sociétés de venir détruire leur secteur. Et là aussi, bon, les avocats peuvent avoir eux-mêmes quelques difficultés. En France, par exemple, des sociétés utilisent ce système des procès bâillons pour intimider des opposants, les avocats ou les médias. Depuis 2009, le groupe Bolloré a intenté une vingtaine de procès en diffamation contre France 2, Bastamag, France Inter, France Culture, France Info, Les Inrocks, Le Monde, Libération, Mediapart, L'Obs, Le Point, Rue 89, Greenpeace, REACT, Sherpa. Donc c'est voilà, pour des articles, pour des reportages ou des rapports d'ONG. Enfin bon, la stratégie, c'est vraiment juste attaquer et bon, c'est un peu contourner la loi sur la liberté de la presse aussi. Enfin, et de la même façon, Apple, Areva, Vinci ou Veolia ont aussi attaqué en justice des ONG ou des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que donc il y a cet aspect-là où voilà, la réaction, enfin ou du moins l'action de ceux qui détruisent se fait de plus en plus dur en fait. Et bon, comme dirait Laurent Pinatel, qui est porte-parole de la Confédération paysanne, pour faire taire les gens, on peut soit essayer de les faire mettre en prison, soit essayer de leur prendre de l'argent. Il dit les taper au porte-monnaie. Évidemment, lorsqu'on est une petite association, on est une association avec peu de moyens financiers, chaque procédure à laquelle on a à faire face coûte de l'argent. Et à certains moments, l'action qu'on peut avoir, elle est limitée et elle finit par être arrêté par manque d'argent, par manque de moyens. Et donc, effectivement, quand les problématiques, à notre petit niveau, par exemple, on s'en rend compte, si les problématiques se multiplient et qu'on a plein d'actions qui contreviennent à la loi sur l'environnement, que ce soit des pollutions de rivières, des décharges sauvages, des constructions illicites, etc., etc., on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas multiplier même les procédures juridiques, parce que forcément on finit par ne plus avoir les moyens ou financiers, humains, et que ça devient vraiment quelque chose d'absolument trop lourd. Alors, cependant, les choses ne sont pas complètement noires, c'est-à-dire qu'il existe. Il y a des ONG donc qui agissent et qui soutiennent ces petits militants. Et puis il y a bien sûr des juges qui font leur travail aussi. Et
qui ne sont pas encore assassinés, c'est super.
Et qui ne sont pas encore, oui. Et on a par exemple l'exemple donc, sur les aspects de la lutte contre la corruption, par exemple. Au Guatemala, une des dernières procureurs, c'est comme le ministre de la Justice chez nous, donc qui s'appelle Claudia, qui s'appelait, puisqu'elle a changé de... Elle n'est plus au ministère à l'heure actuelle. Claudia Paz Ipaz, elle a effectivement réussi à faire baisser fortement la corruption dans son pays. Son bilan, donc en 3 ans, un rapport d'État du département d'État américain publié en 2012 montre que le taux d'impunité, qui était de 95% à son arrivée en 2009, est descendu à 72% à son départ. Donc l'action de la justice contre la corruption, quand il y a quelqu'un de haut placé qui se lance dans ce domaine-là, bon, ça peut avoir de l'effet. Donc c'est quand même un aspect rassurant. Et aussi, bon, des nombreuses organisations internationales qui viennent au secours des défenseurs de la nature, donc notamment des ONG telles que la fondation d'Alexander Soros ou bien Global Witness qui est établie au Royaume-Uni, qui a été constituée pour combattre la corruption, qui est une des causes importantes des désastres environnementaux. Et donc, cette ONG s'est constituée sur un dossier cambodgien, par exemple. Et donc, voilà, on a, heureusement, cet aspect de légal qui permet d'agir dans certains cas. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'entendre toutes les musiques et que j'aille jusqu'au bout de mon propos. Je voulais quand même, donc, je dirais, malgré les intimidations, les violences, hein, les défenseurs de la nature, ils sont de plus en plus nombreux à se battre de toutes sortes de façons et dans de plus en plus de pays. Et puis, très souvent, ce sont des gens qui se lèvent comme ça, soudainement, enfin, qui, voilà, qui se lèvent contre une exaction locale voilà, un jour, l'indignation se transforme en colère, de simple citoyen, on devient militant, on devient lanceur d'alerte, ou on se retrouve face à un bulldozer, à un policier ou à un milicien armé, et quelque chose s'est passé. Et en fait, sans vraiment savoir pourquoi, on se retrouve résistant. Et donc ça, c'est quand même
une bonne nouvelle.
Alors, je terminerai par l'exemple de Paul Watson. Paul Watson, c'est le créateur de Sea Shepherd, donc qui est une organisation qui agit pour défendre la mer. Et il a commencé avec Greenpeace. Et puis lorsque Greenpeace envoyait des canots pour protéger les baleines. Et donc il raconte, c'était en juin 1975. J'avais 25 ans. Je participais à la première campagne de Greenpeace pour protéger les baleines. Nous venions de surprendre des bateaux tueurs russes à l'œuvre dans une centaine de kilomètres des côtes au nord de la Californie. Notre stratégie était simple. Nous positionner de façon à servir de bouclier entre leur bateau harpon et le groupe des baleines. Une forte explosion a soudain éclaté au-dessus de nous. Et puis nous avons entendu le sifflement du harpon à pointe explosive qui fendait la surface comme une lourde épée. Devant nous, une femelle a hurlé de douleur et une fontaine de sang chaud a jailli de ses flancs. Et donc, il raconte donc, que la femelle meurt. Le mâle essaie de se positionner pour la défendre et se fait blesser lui aussi. Et donc, quand le mâle se fait blesser, il saute hors de l'eau. Et à un moment, il plonge et se soulève. Et Paul Watson le regarde, il dit « Sa mâchoire inférieure pendait et touchait presque le bord de notre canot pneumatique, si près que j'aurais pu prendre une de ses énormes dents avec mes doigts. Mais alors que sa tête s'élevait toujours plus haut et que je fixais cet œil si proche que je pouvais y voir mon propre reflet, il se contracta et commença à se laisser glisser lentement dans la mer. J'ai soudain pris conscience que cette baleine avait compris ce que nous faisions. » J'ai gardé un contact visuel avec elle jusqu'à ce que son œil s'enfonce sous la surface de l'eau et disparaisse. Il aurait pu facilement nous tuer en tombant sur nous et notre fragile canot, mais il ne l'a pas fait. Son regard m'accompagne depuis. Je sais qu'il avait compris que nous étions là pour le sauver, pas pour le tuer. J'ai eu honte d'avoir échoué. Je me suis senti impuissant et furieux, frustré et impressionné à la fois. Et donc, il dit aussi, j'ai vu autre chose dans cet œil, de la pitié. Et donc il termine sur ces baleines qui sont massacrées pour leur viande, pour fabriquer de l'huile, etc. Et de l'huile qui est résistante à la chaleur, qui est utilisée aussi pour fabriquer des missiles balistiques conçus pour exterminer en masse des êtres humains. Et il dit, est-ce que nous sommes vraiment déments ? Et donc cela, ça a été pour lui une prise de conscience aussi, enfin encore plus forte, du fait de cette baleine qui a fait comme si elle allait leur sauter dessus qui avait compris le pourquoi de leur présence. Donc
donc on rappelle le titre de ce
donc
livre.
Le titre, c'est Les héros de l'environnement, et c'est écrit par Elisabeth Schneider. Donc, ça vient de paraître, c'est aux éditions Seuil, dans la collection Reporter. Et je crois que c'est beaucoup de portraits, un peu partout sur le monde. Et je trouve que c'est encourageant de se dire qu'il y a du courage chez les humains aussi, qu'il y a de la prise de conscience. Et que même très faible, on peut parfois s'opposer avec succès à plus fort que nous. Bon, c'est David et Goliath à l'époque d'aujourd'hui. Alors, on peut finir par un petit bout de musique, la Canción del Alma.
Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt Martine.
Au revoir. Merci, à bientôt.